Première partie. La vie de Paul sans Christ. Acte 22, verset 1. Frères et pères. Paul n'est pas agressif. Ses paroles bienveillantes, alors qu'il s'adresse à des individus cherchant sa mort, font déjà apparaître un aspect du royaume de Dieu. Il détruit d'emblée la barrière entre le « je » et le « vous », qui souvent bloque ou rabaisse l'auditeur. « Je ne suis plus comme vous ». Au contraire, ils se mettent à leur niveau. Mieux encore, ils s'identifient à eux. Certes, ils ne sont pas frères en Christ, mais ils le sont sur le plan national et en Adam. Écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Il parle avec assurance, sans crainte des hommes, bien qu'il soit en danger. Cette attitude suscite le respect et l'écoute de la foule. Remarquons en passant qu'il utilise un droit juridique reconnu, celui de plaider sa défense. Verset 2. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en araméen, ils se tinrent encore plus tranquilles. Les premières phrases déterminent le degré d'écoute. Paul met en pratique ce qu'il a lui-même enseigné. Si je ne connais pas la langue dans laquelle on s'adresse à moi, « celui qui parle cette langue sera un étranger pour moi, et je serai un étranger pour lui. » 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 11. Chaque phrase est à la portée de tous, car non seulement il s'adresse à eux, dans leur langue maternelle, mais il expliquera ses expériences spirituelles à l'aide de faits concrets, en mettant de côté toute expression étrange pour les non-initiés. Alors Paul déclara, verset 3. Je suis juif, né en Tarse, en Cilicie. Paul se présente. Il n'a rien à cacher, n'étant ni un malfaiteur, ni un membre d'une secte honteuse. Pour la troisième fois, il s'identifie au peuple. Je suis juif. Aujourd'hui comme alors, il est rassurant de connaître les origines de celui qui parle. Mais j'ai été élevé ici à Jérusalem, et j'ai eu comme maître Gamaliel qui m'a appris à connaître exactement la loi de nos ancêtres. Son public peut feindre d'ignorer Tarse, mais non Jérusalem. C'est ici, dans la capitale, la ville de Sion que chaque juif aime, et au pied de Gamaliel, l'un des maîtres juifs les plus célèbres, membre du conseil supérieur, et respecté de tout le peuple que Paul a été formé. Acte 5, verset 34. Il sous-entend. Cette loi par laquelle vous voulez me faire mourir, je la connais et la respecte. Je suis donc l'un des vôtres, non seulement par ma naissance, mais aussi par ma formation. Homme de réflexion, je ne me laisse pas ébranler par n'importe quelle philosophie. Par ce tableau précis de son arrière-plan, Paul va gagner le droit de parler. J'étais aussi plein de zèle pour Dieu que vous l'êtes tous aujourd'hui. Il complimente en quelque sorte ses auditeurs. Cela n'est pas une flatterie, mais la vérité. Votre témoignage peut être percutant et pourtant conciliant. Reconnaître une qualité, même mal utilisée chez vos auditeurs, c'est le moyen le plus efficace de leur montrer qu'il n'y a en vous aucune condescendance, aucun mépris à leur égard. Dites par exemple, « Je sais que vous êtes un croyant convaincu. » Merci de m'avoir reçu dans votre pays. Vous aimez ce qui est vrai, et moi aussi. Trop de chrétiens rejettent, attaquent ou contredisent systématiquement leur vis-à-vis sur des points comme la foi ou la prière, qui sont en fait des points de contact. La personne se sent alors méprisée ou humiliée et se ferme comme une huître. Au contraire, la rejoindre sur l'élément de vérité que vous discernez vous permettra de l'emmener plus loin. Verset 4. J'ai persécuté jusqu'à la mort ceux qui suivaient le chemin du Seigneur. J'ai arrêté des hommes et des femmes et les ai jetés en prison. Paul brosse un portrait où chacun se reconnaîtra. Vous êtes juif. Vous connaissez, respectez et aimez la loi. Vous êtes attaché à Jérusalem et au temple. Moi aussi. Vous haïssez les chrétiens? C'était précisément mes sentiments pour eux. J'étais exactement comme vous aujourd'hui. Ce que vous me faites maintenant, Je l'ai fait à d'autres avant vous avec autant de conviction et de ferveur. » Paul définit ainsi sa position sans Christ. Le contraste avec ce qui va suivre sera d'autant plus saisissant. Non seulement chacun se reconnaît dans cette description, mais peut-être même que certains envient son niveau intellectuel et son zèle religieux. Verset 5. Le grand prêtre et l'assemblée des anciens peuvent affirmer que je dis la vérité. Tout ce que Paul dit est irréfutable, car il prend à témoin les plus hautes instances d'Israël. Cela déconcerte la foule qui est obligée de reconnaître l'autorité de ses paroles. N'ayons pas peur d'affirmer haut et clair qui nous étions, quelles étaient nos convictions, quels amis nous fréquentions, et de nommer les témoins de ces choses. Ma femme, mon médecin, mes collègues peuvent vous l'attester. Cela donne une authenticité inattaquable à nos paroles. J'ai reçu d'eux des lettres pour les frères juifs de Damas, où je me rendis pour arrêter les croyants qui s'y trouvaient, afin de les amener à Jérusalem et de les faire punir. J'étais un ennemi convaincu du christianisme, un persécuteur zélé de l'Église naissante, cherchant à la ravager jusqu'en terre étrangère. Mais ce n'est pas ainsi que Paul s'exprime à haute voix, car il sait que la simple description de ses faits et de gestes parle plus fort que des affirmations théoriques. Le public ne s'y trompe pas, et chacun aimerait lui lancer. Mais alors, pourquoi donc es-tu chrétien aujourd'hui ? À une époque donnée, il est probable que vous-même n'auriez pu imaginer votre conversion. Il est bon alors de faire vivre à vos auditeurs le suspense, l'étonnement, puis l'émerveillement qui a suivi. Réflexion. Pour que notre témoignage touche nos auditeurs, il nous faut veiller à développer plusieurs qualités morales, mais aussi techniques. Elles sont valables pour les trois parties de celui-ci, mais comme elles influencent notre préparation dès maintenant, c'est ici que je vous les présente. A. L'humilité. Elle consiste essentiellement à être vrai. Votre vie passée ressemblera toujours, dans un ou plusieurs domaines, à celle que vit celui ou celle qui vous écoute. Il est donc faux et même malsain de penser qu'une conversion qui n'est pas dramatique ne vaut pas la peine d'être racontée. Comprenons que la plupart des gens vivent dans le train-train quotidien, sans dévaliser les banques, partir à Katmandou ou se jeter par la fenêtre. Une part appréciable de nos compatriotes pourrait s'exprimer ainsi. « Mes parents n'étaient pas les meilleurs que j'aurais pu avoir, mais ils n'étaient pas non plus les pires. En classe, je ne brillais pas particulièrement, mais j'étais rarement le dernier. Je n'ai pas appris le métier de mes rêves, et je n'ai pas le salaire d'un ministre, mais mon travail a ses bons côtés, et j'ai ce qu'il faut pour vivre. Mes relations actuelles ne sont pas au beau fixe, mais ce n'est pas non plus l'enfer. » Et ainsi de suite. N'ayez donc aucun complexe à témoigner de l'alliance que Christ a faite avec une personne ordinaire comme vous. Une fausse humilité, consistant à rendre votre vie passée plus dramatique qu'elle ne l'a été, amplifiant vos défauts et méprisant tout ce que vous avez fait, conduirait les gens à penser que vous étiez quelqu'un de singulier qui avait besoin de s'accrocher à quelque chose. Ils se diront peut-être que vous êtes tombé dans une secte. Votre histoire véridique et sincère est précieuse, car elle rejoint une partie importante du public. La vraie humilité permettait à Jésus de déclarer qu'il était doux et humble de cœur. Évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 29. Tout simplement parce qu'il l'était et que c'était le moment de le dire. De même, le Saint-Esprit vous aidera à décrire qui vous étiez réellement, afin que la vérité fasse son œuvre libératrice. Si votre vie sans Christ a été tourmentée, cruelle ou dévastée par le péché, exprimez-le selon le même principe. Votre récit, exempt d'exagération ou, au contraire, de dilution, sonnera vrai et portera lui aussi son fruit. B. La transparence. Elle fait partie de l'humilité, mais elle permet d'aborder, le moment venu, des questions sensibles, rarement évoquées. Cette authenticité trouve alors un écho dans le cœur de plus d'une personne qui se reconnaît. Si on pouvait lire dans les pensées, voici ce qu'on y verrait. Enfin, quelqu'un ose dire les choses telles qu'elles sont. Comment ose-t-il, ou ose-t-elle, dire ces choses publiquement? Ou encore, voilà exactement où j'en suis. Par son œuvre de guérison intérieure, le Saint-Esprit nous rend capable d'aborder des problèmes aussi vitaux que délicats. Alors que je donnais cet enseignement, une jeune fille vint me trouver en pleurs durant la pause. Elle avait peur que Dieu ne l'oblige à faire mention dans son témoignage de l'avortement qu'elle avait subi. Je la rassurai, lui disant que le pardon et la guérison devaient opérer en elle avant qu'elle n'aborde ce sujet, sans oublier que c'est toujours sur la base de la liberté que Dieu nous appelle. Si cet enfant à naître ne pouvait revenir à la vie, d'autres, grâce à sa transparence, pourraient un jour être sauvés et connaître une existence heureuse. Le principe est le même pour un ancien alcoolique qui évitera parfois des années de souffrance à toute une famille. Tel jeune homme, en l'écoutant, aura choisi la bonne direction au bon moment. Il en sera encore ainsi pour tant d'autres domaines, comme la drogue, l'infidélité, la malveillance, la corruption, la haine, le meurtre, qui, mis en lumière, seront rejetés à temps, conformément à l'Épître de Jacques, chapitre 5, versets 19 à 20. Outre ces qualités morales, il nous faut saisir quelques principes de communication. C. Respecter l'ordre chronologique des événements. 1. Une histoire n'est intéressante que si elle a un début, un développement et une conclusion. Paul raconte « Je suis né, j'ai été élevé, j'ai appris, j'étais zélé, j'ai reçu, je me rendis. » C'est le suspense qui suscite l'intérêt. Or, sans chronologie, le suspense disparaît et l'attention de vos auditeurs également. Aux États-Unis, il est de coutume, quand vous allez au cinéma, de donner un pourboire à la placeuse qui vous accompagne jusqu'à votre siège. Un client refusant de s'y soumettre s'entendit chuchoter à l'oreille par cette dernière « L'assassin, c'est le concierge ». Toute la foule allait vivre 2 heures d'intense suspense, alors que pour ce pauvre homme, l'intrigue policière était maintenant connue d'avance. Un témoignage qui commence par un claironnage du genre « Je vais vous dire comment Jésus-Christ a changé ma vie » s'auto-dépouille d'une grande partie de sa saveur. Beaucoup de non-chrétiens qui, par ailleurs, auraient écouté attentivement un récit sur le thème de la solitude, du chômage ou d'une épreuve conjugale, vont aussitôt fermer leurs oreilles et leur cœur. Pourquoi ? Parce que la solution a été donnée avant même que le problème ne soit posé. Le suspense disparu, l'histoire est devenue plate. 2. Vous vous connaissez en détail, ce qui vous permet de sauter d'un événement à un autre, avec nombre de parenthèses, de retours en arrière ou de sauts en avant. Pensez à vos auditeurs pour lesquels il n'en est rien, et honorez-les en leur permettant de vous suivre. Pour résumer, évitez ceci. Quand j'ai quitté l'école, il faut vous dire que cela faisait déjà 3 ans que je n'avais pas revu ma mère. Elle était séparée de mon père depuis ma 10e année. D'ailleurs, aujourd'hui, ils sont réconciliés, mais j'ai souffert de leur absence à mon mariage. D. User de termes précis. Paul répond précisément aux questions fondamentales. Qui, quoi, où, comment, quand. Les hommes sont ainsi faits. Ils aiment découvrir et vivre en imagination votre aventure. Et cela en est une. Supposez qu'à mon retour de vacances, je vous fasse le récit suivant. J'ai trouvé cette année une plage paradisiaque. Le sable était si blanc et si fin qu'on aurait cru marcher dans de la farine. L'océan avait des couleurs émeraudes et de magnifiques dégradés bleus et violets. L'eau était tellement claire qu'on voyait chaque coquillage et de superbes étoiles de mer. Une brise parfumée faisait danser les branches de palmiers et les couchers de soleil étaient autant de feux d'artifice rouges, orangés et jaunes comme aucun peintre n'aurait pu les dessiner. Votre imagination vous a permis de sentir le sable fin sous vos pieds, de voir une étoile de mer et de contempler ce coucher de soleil. Pourquoi ? Parce que, au fur et à mesure que des mots précis dépeignent le cadre, votre cerveau crée le tableau. Mais supposez que je m'exprime ainsi. J'ai eu des vacances géniales. On a trouvé un coin super et des paysages de rêve. Je n'ai pas de mots pour décrire ce qu'on a vécu, senti et admiré. C'était tout simplement formidable. Au mieux, vous resterez sur votre faim. Au pire, vous serez sérieusement agacé par ce trip égoïste. Si vous parlez de travail, les gens ne vous écouteront que distraitement. Mais quand vous direz que vous êtes menuisier, ils feront une association d'idées, des souvenirs précis comportant des visages, des objets, des odeurs envahiront leur imagination. Quand vous parlez d'une maladie, cela reste vague, mais lorsque vous la nommez, il y a immédiatement de fortes connexions et un intérêt décuplé. Certes, vous avez peut-être beaucoup souffert, mais de quoi ? Souvent ne veut pas dire grand-chose. Était-ce chaque jour, deux fois par mois, chaque année ? Les termes généraux comme travailleur, maladie, problème, à l'étranger, beaucoup, souvent, longtemps, doivent donc être remplacés par des mots précis comme menuisier, cancer de la prostate, dette, en Pologne, 58, trois fois par jour, durant 10 ans. Et communiquer dans un langage accessible. Quelque poignant qu'il soit, un témoignage en jargon évangélique laissera les yeux secs et ne fixera pas l'attention. Ayez constamment le souci de vous faire comprendre. Cela ne se fait pas automatiquement et demande un minimum de réflexion et de travail. Supposons que Jean-Daniel, le fils de votre voisine, Madame Martin, ait une mauvaise grippe. Celle-ci, au cours d'une conversation, vous déclare « Le bon Dieu se moque bien de ce qui se passe ici-bas. Voyez comme il laisse Jean-Daniel souffrir. » Jugez de la meilleure réponse. L'Éternel est plein de miséricorde, mais ses voies sont insondables. Jésus était ému de compassion devant les malades et les souffrants. Accepteriez-vous que nous intercédions auprès du Père pour votre enfant, Madame Martin? Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le plan de Dieu pour nos vies est souvent difficile à comprendre, mais il est toujours prêt à nous aider. Souvenez-vous, Madame Martin, Jésus était bouleversé devant les malades. Il n'a pas changé. Me permettez-vous de prier avec vous pour Jean-Daniel? S'il est important d'utiliser un langage accessible sur le pas de porte, dans une lettre ou au téléphone, cela l'est plus encore en public. Mise en pratique. Votre vie sans Christ. Selon le principe de l'humilité et de la transparence, veuillez répondre aux questions suivantes. Quel est mon arrière-plan familial? Quel est mon arrière-plan géographique et social? Quelle était ma philosophie financière? Quelle était ma philosophie sexuelle? Quels étaient mes buts? Que représentait pour moi ma vie professionnelle ou scolaire? Quels étaient mes passe-temps favoris? Quel genre d'amis avais-je? Qu'est-ce que je pensais de moi-même? Quelles étaient mes principales qualités? Quelles étaient mes faiblesses et défauts? Quelle était ma vie religieuse? Quelle était mon opinion au sujet de Dieu et les faits qui le démontraient? Quelle était mon opinion au sujet de Jésus-Christ? Quelle était mon opinion au sujet de la prière et les faits qui le démontraient? Qu'est-ce que je pensais de la Bible? Qui sont les témoins de ces choses? Quels sont les autres éléments importants de ma vie passée? Selon le principe de l'ordre chronologique, veuillez répondre aux questions suivantes en décrivant uniquement votre vie avant la conversion. Quel fut l'événement le plus important pour chacune de ces périodes? Prénaissance, naissance, petite enfance. Enfance. Adolescence. Études, apprentissage. Âge adulte. Vieillesse. Par cet exercice, apprenons à exprimer dans un langage accessible les péchés, négligences ou faiblesses qui ont caractérisé notre vie passée. Exemple. Excès de table. Je vivais pour manger. J'étais un glouton. Je ressemblais à Obélix. Adultère. Je trompais ma femme. Duplicité. J'avais deux visages. Je portais un masque pour chaque situation. Je savais que j'étais un hypocrite. Mais je ne me l'avouais même pas à moi-même. Emporté. J'étais violent, prêt à me battre pour n'importe quoi. Autocorrection. Repérez maintenant dans toutes vos réponses et note les mots dont le sens serait trop général. Soulignez-les et remplacez-les par des termes précis. Repérez également tous les mots et toutes les expressions incompréhensibles pour des non-chrétiens. Soulignez-les et replacez-les de manière adéquate. En résumé, les 5 éléments nécessaires pour décrire votre vie passée de manière claire sont humilité et transparence, exprimés dans un langage précis et accessible à tous, en respectant l'ordre chronologique des événements. Le but est de présenter un miroir dans lequel les gens vont se reconnaître. En mettant votre témoignage par écrit, vous établirez un fondement sur lequel vous pourrez bâtir. Il ne s'agit ni de l'apprendre par cœur, ni de le fixer de manière rigide, mais plutôt d'en écrire les lignes essentielles. Vous pourrez les développer de mille et une manières, selon que vous vous adresserez à une ou à 100 personnes, à des enfants ou à des adultes, etc. Composition. Relisez encore une fois Actes 22, versets 1 à 5. Choisissez ensuite, dans vos réponses, les éléments les plus intéressants de votre vie avant votre conversion, puis rédigez-les de manière chronologique dans les lignes suivantes.